Avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vos questions dans 10 minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application mobile France Inter. Jean-Yves Le Drian, bonjour.
Bonjour.
Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin. Merci d'être au micro de France Inter. On va commencer dans le sillage de l'édito de Pierre Aski par l'ultimatum au Venezuela qui est donc arrivé à son terme. Plusieurs pays européens dont la France exiger de Nicolas Maduro qu'il convoque une nouvelle présidentielle afin de sortir par les urnes de la crise qui déchire son pays. L'ultimatum a expiré. Fin de non-recevoir, absence de réponse de la part de Maduro.
Un peu de cynisme aussi. Il faut bien voir que ce pays est aujourd'hui exsangue. Il y a de très nombreux réfugiés. Il y a une oppression. Il y a une inflation épouvantable. Le peuple est dans la rue. Le peuple veut le changement. Et pensons qu'il faut éviter qu'il y ait des germes de guerre civile et des affrontements qui puissent se dérouler. Et puis vous avez un président dont l'élection en mai dernier avait été très contestée, y compris par les pays européens. Et puis vous avez un président de l'Assemblée nationale dont l'élection, elle, n'a pas été contestée, elle remonte à 2015. Et précisément... Le président Maduro estime nécessaire de renouveler et d'aller aux urnes pour renouveler cette assemblée-là qui, elle, est reconnue, alors qu'il apparaît très clairement pour tout le monde, y compris pour tous les Européens, qu'il est nécessaire de sortir de cette crise par une élection qui soit complètement légitime et qui soit complètement vérifiée, une élection présidentielle, parce que c'est un régime présidentiel. C'est ce que nous avons demandé et nous allons maintenant prendre les dispositions nécessaires puisqu'il y a ce refus de la part du président Maduro pour faire en sorte que la crise vénézuélienne puisse se régler dans le plus possible dans la sérénité.
Donc ce matin à 8h23, depuis le studio de France Inter, vous nous dites ce matin, Jean-Yves Le Drian, que la France reconnaît Juan Guaido, seul chef légitime et président du Venezuela.
Nous allons nous consulter avec nos amis européens aujourd'hui. Nous considérons que aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, M. Guaido, dont la légitimité est parfaitement reconnue, qu'il est habilité à provoquer des élections présidentielles. C'est cela le sujet.
Et qu'il est donc président du coup, par intérim
pour provoquer des élections. Pour provoquer des élections
d'accord,
présidentielles.
D'accord, mais qu'il est, selon la France, président par intérim
du Venezuela.
Nous allons
nous mettre en relation aujourd'hui avec nos collègues européens pour reformuler cette demande et faire en sorte aussi qu'un groupe de contact que nous nous proposons de créer pour accompagner la transition, non pas pour être neutre, mais pour accompagner la transition, puisse se mettre en œuvre avec les pays européens qui voudront bien s'y joindre.
Mais n'est-ce pas au sens strict, Jean-Yves Le Drian, de l'ingérence?
C'est une tentative de notre part de faire en sorte que la crise vénézuélienne se règle dans le calme et éviter qu'il y ait des confrontations et de la violence, y compris l'utilisation de l'armée.
Mais de l'ingérence, vous refusez le terme ?
Ce n'est pas de l'ingérence. À partir du moment où il y a une crise dans un pays et qu'il y a un appel de la part du président Guaido à le soutenir pour rétablir la démocratie, nous pensons qu'il faut qu'il y ait des élections qui valident les choix des Vénézuéliens. C'est une demande démocratique.
Comment ça va se faire, monsieur le ministre? Est-ce que la France va annoncer tout à l'heure seule qu'elle reconnaît Guaido? Est-ce que vous allez le faire dans un communiqué commun à toute l'Union européenne? On sait qu'il y a certains pays, l'Italie, la Grèce, qui ne veulent pas le signer.
Oui, il y a des difficultés d'ordre un peu juridique, puisque l'Union européenne en tant que telle ne reconnaît pas les gouvernements, ne reconnaît pas non plus les États. Et puis, un certain nombre d'autres pays, juridiquement, ne reconnaissent pas des gouvernements, mais reconnaissent des États, ce qui est notre cas. Donc, notre point de vue, c'est de dire, nous constatons le refus du président Maduro d'organiser des élections présidentielles qui seraient de nature à simplifier, clarifier, séréniser la situation au Venezuela. Et nous considérons que M. Guaido a la capacité, la légitimité à organiser ces élections. Et seules des élections libres pourront permettre d'avoir une autorité, une démocratie retrouvée.
Autre dossier, Jean-Yves Le Drian, on a parlé de 130 djihadistes français qui pourraient revenir en France dans les prochaines semaines suite au retrait américain de Syrie. Pour commencer, avant de voir les choses sur le fond, pouvez-vous nous dire de combien de personnes on parle exactement sur ces 130 déjà? Est-ce que vous confirmez le chiffre de 130 français? Et si oui, on parle de combien d'hommes combattants, de combien de femmes, de combien d'enfants?
Je ne vous répondrai pas à cette question.
Mais pourquoi non ?
Je trouve étonnant que des chiffres comme ça sortent. Peut-être qu'il y a des témoins que je ne connais pas dans ces zones. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'en a pas fini avec le terrorisme. et qu'on n'en a pas fini avec les djihadistes, parce qu'on annonce ce chiffre
mais il est vrai,
plus d'une centaine
de personnes. Pardon, c'est Christophe Castaner qui l'a annoncé, c'est pas la presse.
Et il y a dans ce, non, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, enfin, peu importe. En tout cas, il y a dans cette partie-là de la Syrie un certain nombre de combattants, de femmes et d'enfants qui sont dans des camps, dans une zone de guerre. Et puis, vous avez d'autres djihadistes français qui combattent en nombre significatif. Ils combattent soit dans la zone que l'on appelle la zone d'Adjin, qui est à la frontière entre la Syrie et l'Irak, où les combats ne sont pas finis. Daesh est toujours là. Et il y a des combattants français, étrangers, belges, tunisiens, bref, toute une série de combattants étrangers qui combattent sous la bannière de Daesh, et c'est pas fini. Et puis vous avez une bombe à retardement dont on parle peu, qui est la zone d'Idlib, plus à l'ouest de la Syrie, où se retrouve au milieu d'une population de plus de 3 millions de personnes, dans laquelle il y a beaucoup de réfugiés. Au milieu de tout cela, vous avez 30, 40 000 combattants, certains dans des groupes terroristes, d'autres non, où il y a aussi des Français. Donc on n'en a pas fini, ni avec le djihadisme, ni avec les Français qui combattent contre la France, parce qu'ils combattent contre la France. Ce sont nos ennemis. Ils sont Français, mais ce sont nos ennemis en Syrie, ce qui montre la nécessité d'accélérer un processus politique qui aujourd'hui n'embraye pas vraiment.
Donc c'est
beaucoup.
Encore pire que ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont actifs et il y en a d'autres qui reviennent.
On n'en a pas. Je vois la focalisation sur un peu plus d'une centaine de personnes qui sont aujourd'hui dans des camps en Nord-Syrie, dans une zone de guerre. Et on oublie qu'il y en a d'autres qui combattent ailleurs. Et je vous dis, sans vouloir inquiéter de trop nos auditeurs, nous n'avons pas fini avec ces terroristes, avec ce djihadisme-là qui a tué dans notre pays et sur lequel il faut se prémunir et être très vigilant. Mon principal souci dans cette affaire, et c'est le principal souci du président de la République, c'est la sécurité des Français. C'est la sécurité de la France.
Justement.
Alors, pour revenir à votre débat.
Justement, du point de vue des Français qui apprennent, alors vous dites c'est le chiffre de 130, je refuse de le confirmer, mais Nicole Belloubet a confirmé, elle, en disant il y a 75% d'enfants de moins de 7 ans dans ces 130 personnes. Il y a beaucoup d'enfants, mais pourquoi est-ce que vous ne donnez pas le chiffre, vous, alors que d'autres de vos collègues l'ont donné?
Parce que ce chiffre est aléatoire et parce que, moi je veux bien qu'on dise un peu plus de 100, mais en tout cas le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait.
Et qu'est-ce qu'on fait avec eux? Parce que les Français apprennent qu'ils vont arriver en France.
La position n'a pas changé pour nous, c'est-à-dire que lorsque des djihadistes, des terroristes sont faits prisonniers sur les zones de guerre, et ils doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. C'est ce qui se passe en Irak. Et certains terroristes ont été jugés par la justice irakienne parce que c'est là qu'ils ont frappé et c'est là qu'ils ont commis des meurtres à l'égard des populations irakiennes. Mais en Syrie, il n'y a pas vraiment d'État. Et il n'y a pas vraiment d'autorité judiciaire. Et dans ce cas-là, nous considérons que toutes les hypothèses doivent être ouvertes, d'autant plus que dans cette zone du Nord-Est, les États-Unis nous ont fait savoir qu'ils envisageaient de se retirer. Et donc, le risque majeur là, c'est la dispersion. Et donc, il faut éviter cette dispersion.
Et donc, faire revenir en France.
On va voir ce que l'on va faire, mais en tout cas, nous évoquons toutes les hypothèses pour le faire.
Il y a des alternatives au retour en France?
L'autre alternative, c'est le maintien de la situation. Puisque nous sommes dans une zone de guerre. L'alternative d'une expulsion potentielle existe. On verra si elle est prise par les autorités locales. En tout cas, nous devons nous préparer à tout.
Beaucoup à droite, notamment.
Pour éviter la dispersion. La dispersion, c'est ce qu'il y a de pire.
C'est ce qu'il y a de pire parce qu'ils peuvent commettre des actes.
Parce qu'ils peuvent revenir, parce qu'ils peuvent traverser. Mais cette question se posera aussi dans la zone d'Idlib, puisque à partir du moment où, à un moment donné, si d'aventure le régime d'Bachar el-Assad décidait de pénétrer dans la zone d'Idlib, il y aurait à ce moment-là des masses de réfugiés vers la Turquie et une forme de dispersion aussi des terroristes qui sont sur place. Donc il faut être très vigilant. Une sécurité pour la France qui doit être regardée de très très près en permanence, et c'est une partie de mon travail.
Il y a une alternative que défend une partie de la droite et du Rassemblement National, c'est la déchéance de nationalité. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Yves Le Drian? Vous, à l'époque du grand débat sous François Hollande et Manuel Valls, vous y étiez favorable et vous aviez dit cette phrase-là: au nom de quoi on préserverait la nationalité française à des assassins de ce type? Vous avez changé d'avis?
Non, mais le débat était clos. Donc aujourd'hui, je suis obligé d'agir en fonction de la réalité telle qu'elle est. Et la réalité telle qu'elle est, c'est qu'il y a des groupes de terroristes qui sont aujourd'hui soit en prison, soit en action dans cette zone et qu'il faut s'en prémunir de manière extrêmement stricte. C'est aussi l'objet d'une réunion qui se tiendra après-demain à Washington, où l'ensemble des pays de la coalition va s'interroger sur le sujet et essayer d'avoir une position commune. Parce qu'il n'y a pas que la position de la France. Vous avez aussi la position de la Belgique, vous avez aussi la position d'autres pays européens qui fournissent, si je peux utiliser le terme, quelques unités de terroristes à l'extérieur, mais vous avez aussi des pays comme la Tunisie, d'autres qui sont aussi soumis à la même difficulté.
Est-ce que la France va maintenir des hommes dans la région après le retrait américain de Syrie? Et si oui, pour quoi faire? Combien et pourquoi faire?
Nous avons très peu de personnel militaire en Syrie. Parce qu'on a parfois tendance à confondre deux guerres. Il y a la guerre contre Daesh, celle dans laquelle nous sommes engagés, qui sans doute va trouver une fin bientôt, mais c'est pas fini. Il y a encore des zones de combat, et puis il y a aussi des risques d'action clandestine de Daesh, et nous avons contribué, dans le cadre de la coalition, à faire en sorte que le territoire occupé par Daesh soit aujourd'hui libéré. C'est le cas en Irak, et ça devient le cas dans la partie est de la Syrie. Ça, c'est la guerre contre Daesh. Dans ce conflit-là, nous resterons en Irak pour contribuer au renouvellement et au renforcement des forces irakiennes. Je suis allé le dire il y a peu de jours au président et au premier ministre irakien. Et en ce qui concerne la Syrie, nous avons très peu de présence, c'est surtout une présence américaine.
Jean-Yves Le Drian, votre casquette de ministre de l'Europe maintenant sur le Brexit. Theresa May a demandé un nouveau round de négociations à l'Union européenne. L'Union européenne a dit niet, c'est fini, on a négocié. Est-ce qu'on va désormais vers une sortie sèche de l'Union ?
Vous savez, en Grande-Bretagne, il y a une double impasse concernant le Brexit. Vous n'avez pas de majorité à la Chambre des communes, loin de là, pour se mettre d'accord sur l'accord de retrait qui a été discuté entre Michel Barnier pour l'Union européenne, qui représentait l'Union européenne et qui avait un mandat de l'ensemble des 27, et la Grande-Bretagne. Ils ont signé un accord. Cet accord de retrait, c'est-à-dire le constat du divorce et les conditions du divorce, n'a pas été validé par la Chambre des communes. Bon. Et puis d'un autre côté, il n'y a pas non plus d'accord de la Chambre des communes pour un non-retrait. Donc il y a une double impasse.
Et donc on fait
quoi ?
Il faut
donc, c'est plutôt aux Britanniques qu'il faut leur demander.
Ouais.
Madame May a annoncé l'autre jour qu'elle voulait avoir des aménagements alternatifs sur l'accord de retrait. On ne sait pas lesquels. Et le temps presse, puisque le 29 mars vient vite. Nous sommes très disposés à discuter avec la Grande-Bretagne sur les relations futures. Mais sur l'acte de divorce, non. Parce que je ne vois pas comment, en deux semaines, on peut rattraper et faire des modifications qu'on n'a pas pu obtenir en deux ans de négociations sur l'accord de retrait. La question principale, c'est la question irlandaise. Et là, il faut trouver une sortie qui n'est pas facile. On voit bien la difficulté. Si on établit une frontière dure, on remet en cause tout le passé d'une forme de pacification en Irlande, qui a d'ailleurs été obtenue par l'Union européenne, et on engendre des difficultés qui pourraient aboutir à la renaissance, à des renaissances conflictuelles. Donc ça, c'est pas possible. Et d'un autre côté, si vous ne mettez pas de frontière du tout, vous faites en sorte que les grands principes de l'Union européenne, l'unité de l'Union européenne est remise en cause, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas vraiment une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Donc il faut trouver une voie médiane.
Un nouveau référendum pour trancher l'épineuse question, selon vous, Jean-Yves Le Drian.
Il faut la poser aux Britanniques. Nous n'avons pas cette responsabilité. Les Britanniques ont décidé de sortir. Nous le regrettons, mais nous le constatons. Il y a une proposition d'accord de retrait qui a été convenue avec les autorités britanniques. Le Parlement l'a refusé. Le Parlement refuse aussi la sortie sèche. Donc qu'ils nous fassent des propositions. Mais en tout cas, sur l'accord de retrait, il n'est pas question de revenir.
Jean-Yves Le Drian, on connaît à peu près toutes les têtes de liste pour les prochaines élections européennes dans 4 mois, sauf La République En Marche, le parti majoritaire n'a toujours pas de tête de liste. Alors on entend qu'il faut un profil d'expérience, rassembleur, proche des territoires tout en ayant une passion de l'Europe. Et du coup, avec Nicolas Demorand, on a réfléchi, on a dit mais...
Ah oui.
Mais
ah
c'est
oui.
lui.
Ah oui, voilà. Oui. Bah non, c'est pas moi. Non.
Si c'était lui,
je suis ministre de l'Europe et de relations internationales. Donc je vais évidemment m'investir dans cette campagne, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et puis je pense qu'il faut qu'il y ait un fort rebond des Français pour dire « il faut changer l'Europe, mais l'Europe est indispensable à notre destin ». Pour cela, il y aura une liste assez large, assez ouverte, et qui aura certainement une tête de liste compétente.
Et pourquoi pas vous ?
parce que je suis centré sur ma mission qui m'a été donnée par le président de la République. J'ai beaucoup à faire.
Mais vous n'avez pas envie ? On avait parlé une fois de la tentation de la Bretagne avec vous à ce micro.
Non, c'est la volonté. J'ai la volonté de poursuivre le travail qui m'a été confié. J'espère le faire le mieux possible. Et je serai partie prenante totalement dans cette campagne. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une liste très, très ouverte, très mobilisatrice, avec certainement une tête de liste compétente.
Quelques questions concernant la France avant d'aller au standard. Le grand débat se poursuit ici, Jean-Yves Le Drian. Parmi les différentes pistes pour en sortir par le haut, pourrait se profiler un référendum à choix multiples. Y seriez-vous favorable ?
Je pense qu'il y a une demande de participation qui est révélée par cette crise. Il y a une volonté de respiration démocratique qui a été affichée et qui s'affiche régulièrement. Le temps de l'élection représentative est trop long. Les 5 ans, il faut que, entre-temps, il puisse y avoir des consultations sous différentes formes. Le référendum en fait partie. C'est pas la seule option. Ça fait partie de ces réponses possibles. On verra bien. Le grand débat n'est pas achevé. Le grand débat va s'achever le 15 mars. Je l'observe d'ailleurs qu'il se passe bien. Contrairement à des prophètes de mauvais augure qui indiquaient que ça allait être un bide. Non, ça marche bien. Il y a de nombreux débats partout, des milliers de contributions qui se mobilisent. Et donc, cela montre que le choix qui a été fait par le président de la République d'organiser ce grand débat était tout à fait opportun. Maintenant, on va jusqu'au 15 mars. Ensuite, les 5 sages vont récapituler l'ensemble des propositions qui seront faites et le président de la République et le gouvernement seront amenés à prendre des initiatives. Le président de la République a annoncé des initiatives fortes. Le référendum peut en faire partie.
Est-ce qu'il faut qu'il ait lieu le jour de l'élection européenne?
Je suis moins sûr de cela. Voilà. Moi, vous voyez, profondément, à titre personnel, j'ai vu que chez certains de vos confrères, on indiquait qu'il pouvait y avoir un référendum le jour même des européennes. L'enjeu européen est suffisamment fort pour en faire un enjeu européen. Le référendum, c'est autre chose. C'est un enjeu national. Je ne pense pas qu'il faille mélanger les deux, c'est mon avis personnel.
Donc à titre personnel, vous ne voulez pas... Un référendum, pourquoi pas, mais pas le jour du vote des européennes. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui est une des revendications premières des Gilets jaunes, beaucoup le craignent, estimant que ça peut être un danger pour la démocratie représentative. Est-ce que vous...
Chacun sort son RIC et on ne sait pas vraiment comment le RIC peut fonctionner. Je disais tout à l'heure qu'il fallait trouver des formes de consultation intermédiaire entre les élections pour qu'il y ait une participation citoyenne. C'est tout à fait indispensable. Cette forme-là doit être étudiée pour qu'elle n'amène pas à toutes sortes de dérives et de remises en cause permanentes et du coup un non-fonctionnement de l'État et un non-fonctionnement des collectivités. Mais qu'il y ait des formes de participation à innover et que le grand débat puisse permettre d'identifier ces formes de participation, je suis favorable.
Le Premier ministre a confirmé sur France Inter que la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires restait un objectif pour le gouvernement, mais n'était pas un totem. Pensez-vous, Jean-Yves Le Drian, qu'il faille faire une pause sur cette question-là ?
Moi, vous faites sans doute référence à des propos que j'ai tenus sur la fonction publique. Je considère qu'il faut que le grand débat s'achève pour que l'on puisse identifier les choix qui s'imposent à la France. Et donc, anticiper sur les conclusions avant même qu'il n'ait eu lieu n'était pas une bonne sortie.
Le cumul des mandats, certains dans la majorité veulent le rétablir pour les maires de petites villes. Est-ce que vous y êtes favorable ?
C'est une option, mais là aussi, ça dépendra du grand débat. Ça peut être une forme de plus grande présence sur le territoire des parlementaires, en particulier ceux qui ont un mandat de maire d'une petite commune. Moi, je ne suis pas bloqué sur ce sujet.
Allez, on file au standard. Beaucoup d'appels ce matin pour vous, Jean-Yves Le Drian. Bonjour Robert.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci. Bonjour, Monsieur Le Drian.
Bonjour.
Je voudrais poser la question de savoir, il y a quelques semaines de cela, quand les résultats ont été annoncés en RDC par la CENI, vous étiez le premier à émettre un doute quant à la véracité de ceci. Et une semaine après, le président Tshisekedi avait été intronisé président de la République. Aujourd'hui, au Venezuela, vous demandez à ce que le président Maduro organise des élections. Sinon, vous reconnaîtrez le président, enfin Monsieur Guaido, comme président intérimaire. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures quand on sait qu'en Afrique, les résultats des élections sont souvent, ne sont pas les banques qui sont annoncées.
Merci Robert pour cette question. Jean-Yves Le Drian va vous répondre. Énormément de questions sur la position de la France vis-à-vis du Venezuela, pour citer la première partie de la question de notre auditeur. Jean-Yves Le Drian.
Je pense qu'il y a une situation totalement différente dans les deux cas. Sur l'élection dans la République démocratique du Congo, j'ai fait observer que les résultats ne semblaient pas correspondre à toutes les informations que l'on pouvait avoir par ailleurs de sortie des urnes. J'observe que je n'étais pas le seul, puisque le lendemain, l'Union africaine a fait la même déclaration, en s'interrogeant même sur la nécessité de recompter les bulletins. Mais là, il s'agissait d'une élection en cours qui s'est achevée finalement par une espèce de compromis à l'africaine, que je ne vois pas pourquoi on le remettrait en cause aujourd'hui. Et M. Tshisekedi est devenu président dans une configuration très très particulière et propre à la République du Congo. Par contre, sur le Venezuela, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une crise majeure, avec des risques de violence, des affrontements potentiels, le fait qu'il y a une oppression qui fait des morts. Et là, nous demandons qu'il y ait une vérification démocratique. Et donc qu'il y ait un scrutin qui permette d'identifier qui peut être président de la République du Venezuela, et que ce scrutin soit confirmé par sa légitimité par des observateurs internationaux. C'est tout à fait différent de comme situation.
Une question sur l'Iran. Depuis 3 jours, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont mis en place un système de troc pour que les entreprises européennes contournent les sanctions américaines et puissent faire du business avec l'Iran. Est-ce que vous pensez que ça suffira à sauver l'accord sur le nucléaire iranien ? C'est un geste politique vis-à-vis de l'Iran, mais est-ce que ce sera suffisant ?
Nous sommes au rendez-vous de ce que nous avions dit. Et lorsque il y a eu de la part des États-Unis, d'une part, la rupture de l'accord de Vienne, qui assure la non-prolifération nucléaire en Iran. Et d'autre part, les mesures dites extraterritoriales qui font que le droit américain est élargi à toutes les entreprises qui pourraient commercer avec l'Iran. Nous avons dit aux Iraniens, nous allons mettre en place un dispositif qui permettra à l'Iran de bénéficier des retombées financières et économiques de son respect de l'accord. Et tant que l'Iran respectera l'accord, nous sommes sous cette logique-là. Et nous sommes au rendez-vous, puisque nous avons monté avec la Grande-Bretagne et avec l'Allemagne ce dispositif, cette espèce de chambre de compensation qui permet des importations et des exportations de secours financés et qui évite de passer par l'usage du dollar et qui permet aussi à l'Iran d'avoir des activités d'échange avec les pays européens concernés.
Donc c'est du troc, mais sans argent, c'est ça ?
C'est une forme de chambre de compensation, ouais. On appelle ça comme ça. Et donc, qui est ouverte. Ce ne sera pas uniquement lié aux 3 pays fondateurs, et d'autres pays se sont déclarés intéressés à venir dans cette initiative-là. C'est aussi montrer à l'Iran que nous respectons nous aussi nos engagements. Mais ça veut dire aussi que l'Iran doit poursuivre le respect de ses propres engagements en la matière.
Nathalie, sur Twitter, vous demande la chose suivante concernant le Brexit et ses conséquences. Comment la France traitera-t-elle les ressortissants britanniques en France après le Brexit ?
Écoutez, pour l'instant...
On sait toujours
on sait, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Il y a des discussions en cours pour évaluer cette nouvelle hypothèse, mais faire en sorte que les citoyens britanniques qui sont en France et les citoyens français qui sont en Grande-Bretagne puissent bénéficier des mêmes avantages dans une nouvelle situation, d'une nouvelle donne, des mêmes droits. Et cette discussion est en cours.
Une question rapide via l'application de France Inter. C'est Manon qui vous demande ce qui a été prévu pour la participation des Français de l'étranger au grand débat. Est-ce que nous sommes les grands oubliés ?
Non, il y a des initiatives qui vont être prises. Alors, sans doute pas dans tous les pays, parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de monde pour participer au grand débat. Mais j'ai donné des orientations aux ambassadeurs pour que dans les pays où il y a une forte présence française, puisse être organisé aussi le grand débat.
Léa ?
Oui, peut-être une dernière question, si vous le voulez bien, sur le gouvernement italien. Pas un jour ne passe à peu près sans que, tout cas pas une semaine, sans que Matteo Salvini, Luigi Di Maio ou les autres tapent sur la politique de la France et sur Emmanuel Macron, responsable de la crise migratoire à cause de la colonisation qui s'est mal fait en Afrique, etc. etc. Je vous passe les autres citations et les plus trash. Vous répondez pas, c'est ça la politique de la France, et on répond pas à Salvini ?
Nous ne nous occupons pas de juger la politique intérieure italienne. Et j'observe que certains leaders italiens ne se privent pas de juger la politique intérieure française. Nous tenons à ce principe et lorsqu'il y a des exagérations, et il y en a eu, nous convoquons l'ambassadrice à Paris pour leur faire part de notre colère et de notre stupéfaction devant ces comportements. Mais j'observe aussi que au-delà des mots et au-delà des diatribes qui sont prononcées régulièrement par certains leaders italiens, pas par tous, heureusement, quand on arrive devant la nécessité d'action, l'Italie se plie. On avait cru comprendre que sur la zone euro, il serait et sur le respect de leurs engagements financiers, ils seraient offensifs. On constate qu'ils ont été finalement respectueux de leurs engagements antérieurs. On constate que sur les migrations, il y a eu récemment une affaire de bateau menée par une ONG et les Italiens ont été très heureux de retrouver une forme de solidarité européenne pour gérer cette crise. Bref, quand on est devant la réalité des faits et non pas devant l'incantation du verbe, l'Italie est obligée de se rendre compte qu'il y a des dures réalités.
Un mot rapide, Léa.
Allez, toute dernière question sur la loi anti-casseurs, ce qui remue au sein de la majorité. Plusieurs députés ne vont pas la voter, dont Aurélien Taché. Mathieu Orphelin, à l'instant, dit qu'il va s'abstenir sur cette loi-là. Certains ont peur qu'elle soit liberticide. Vous avez confiance? Elle vous va, cette loi anti-casseurs?
Je pense que dans l'aggravation des risques et dans l'aggravation des violences que l'on constate depuis plusieurs semaines, il est indispensable que l'État puisse assurer la sécurité et cet outil juridique en fait partie.
Merci, monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires européennes.
Étrangères.
Ça aurait été un pléonasme autrement. Jean-Yves Le Drian, merci d'avoir été au micro d'Inter. Le carrefour du 7-9 à suivre.